Une vie, une œuvre, Gladys Huntington, 1887, Pennsylvanie, 1959, Sussex. Son arrière-grand-père paternel, Joseph Parrish, milite pour les esclaves noirs évadés. Son père, Alfred Parrish, et sa mère, Kate, l'éduquent selon les valeurs des Quakers. Après New York, Gladys Theodora Huntington passe beaucoup de temps à Paris, Londres, Biarritz ou en Italie. On lui connaît un amour passionné pour un certain Mario, puis son mariage avec Constant Huntington. Ils vivent à Londres, près de Hyde Park. Leur fille Alfreda naît en 1922. L'écriture lui est essentielle. On lui doit plusieurs nouvelles, mais l'œuvre qui la rend célèbre est d'abord anonyme. Cette énigme littéraire a pour titre « Madame Solario », publiée en 1956. Le succès est immédiat, son auteur est assimilé à François Sagan ou Henry James. Marguerite Yourcenar est séduite et une psychanalyste est persuadée que Winston Churchill en serait l'auteur. 2 ans plus tard, Gladys Huntington met fin à ses jours. François Connac signe, avec Anne Franchini-Pérez, « Une vie, une œuvre, Gladys Huntington ».
Vous pouvez parler d'elle ?
Irréprochable. Rien ne se voit.
Ses yeux étaient si clairs que les larmes.
On la dirait prisonnière d'une sorte de souffrance.
Madame Solario, formidable histoire.
Personne ne sait très bien ce qui se passe derrière ces murs.
On avait toujours parlé d'elle.
Grande histoire, histoire séduisante, par ses personnages, par la fluidité du extrême du récit. Où...
Beaucoup de cet amour.
Je vous aime jusqu'à ne plus voir, ne plus entendre.
Au début de ce siècle, Cadenabia, sur le lac de Côme, était au mois de septembre une villégiature à la mode. Sa vogue s'expliquait sans peine. La beauté presque excessive du lac aux contours sinueux, encadré de montagnes, les rives parées de villages jaunes d'or et de villas de style classique parmi les cyprès, et la proximité au bout du lac, de route reliant l'Italie à toutes les capitales de l'Ouest et du centre de l'Europe. Pourtant, Cadenabia était difficile d'accès, ce qui ajoutait encore à son charme. Sur de longues distances, ce rivage enchanteur était totalement dépourvu de grandes routes. On parvenait à Cadenabia par un petit vapeur qui, partant de Côme, zigzaguait sur le lac au cours d'un voyage d'une incroyable lenteur. L'impression qu'on éprouvait en arrivant était extraordinaire.
La première fois où j'ai contacté les petits-enfants, ils étaient... Quoi ? Quelqu'un s'intéresse encore à ce livre ? Ils ont gardé la propriété de famille... Ce qui est une des fermes les plus historiques de la Nouvelle-Angleterre. J'ai téléphoné là-bas, j'ai dit est-ce que je pourrais venir, est-ce qu'il y aurait des choses sur Gladys Huntington. Et la conservatrice m'a quasiment jeté, me disant non, il n'y a rien du tout sur Gladys Huntington ici.
C'est un roman cruel.
Sur la violence de... des relations qui sont nouées pourtant dans un milieu très raffiné, très sophistiqué, où tout semble très feutré, où on n'a pas l'habitude de dire directement les choses. Elles se disent, ou plutôt elles s'expriment indirectement.
Elles s'expriment à coups de revolver aussi.
Aussi.
Plus elles sont comme ça, plus un jour ça éclate.
Madame Solario, Gladys Huntington, par François Connac et Anne Franchini.
Alors, ce parfum de scandale, il est d'autant plus fascinant que le livre est à première vue très éthéré, très gazé, très vaporeux. Et je crois que c'est cette dimension très aquarellée de l'écriture qui m'a saisi dans un premier temps. Et puis, peu à peu, je trouve que la gravité, les passions somme toute très archaïques, très noires, se laissent deviner plus qu'elles ne se disent, plus qu'elles ne s'énoncent. Et il y a, je crois, vraiment la construction très progressive d'une tragédie, mais qui en passe par cette dimension de fantasme, cette dimension de très picturale.
Quel amour, ces personnages dans Madame Solario.
Pour la suivre.
C'est comme dans un rêve condensé, tout en un ou un dans tous.
Quelque chose qui serait de l'ordre d'une sonate des spectres.
L'idée m'était souvent venue de
Bernard Cohen.
Chercher qui avait écrit Madame Solario. Bon, je ne l'avais jamais poursuivi pour des tas de raisons. Et un jour, je vivais alors aux États-Unis. Et je suis tombé, donc c'était en 2006, je suis tombé sur une lettre de lecteur dans la revue The Atlantic. Cette lectrice disait, par ailleurs, que pensez-vous du fait que on ait attribué à Sybil Bedford l'écriture du roman Madame Solario. Et donc l'auteur de cet article répondait, en effet, ça a été souvent attribué à Sybil Bedford, mais d'après ce que je sais, ce serait quelqu'un qui s'était appelé Gladys Parrish. Et rien de plus.
Oh, c'est une vieille amie.
Nathan Minor.
C'est une vieille amie. C'est un livre que j'ai lu quand il est sorti chez Zilberstein en 10-18, il y a je ne sais plus quand.
85.
Ah ben voilà. Je l'ai lu à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que, très vite, à l'occasion de la rumeur et de la question que tout le monde posait, qui c'est, qui l'a écrit, etc., chaque fois qu'il y a un roman anonyme, bon, pour moi, quelque chose s'est passé, disons, où des images ont pris la place des mots. C'est-à-dire que, lisant, je me disais, c'est très proche d'une certaine peinture. C'est quelqu'un qui a fait de la peinture, qui aime la peinture, qui aime les tableaux. C'est pas un grand peintre, on l'aurait su. Mais c'est peut-être un peintre du dimanche. À ce moment-là, j'ai, comme ça, eu la vision, c'est bien dire la vision, je suis pas Bernadette Massin, mais bon, la vision de peinture reproduite dans Life Magazine pendant la guerre, ça devait être dans les années, je ne sais pas moi, 44, 45, je ne sais plus, de peinture très délicate, si vous voulez, un peu à la Dufy, des roses, des bleus.
Un peu délavé.
Pas vraiment délavé, mais enfin pâle, assez transparente plutôt que délavé. Et de scènes mondaines, plus ou moins, et de paysages dans le midi de la France. C'est tout. J'ai vu ça. Puis je me suis dit, mais enfin, quelle drôle d'idée quand même. Puis je me suis dit, mais c'est peut-être pas une idée tellement idiote. Cherchons.
Dès Linky Pete, il y a un pacte de lecture qui est proposé par le narrateur,
Stéphane Corvisier,
et qui combine tout à la fois les fractions et l'enchantement. Le narrateur nous entraîne dans un univers qui est difficile d'accès. Or, Madame Solario est une femme dont les énigmes sont difficiles d'accès. Et puis, on y arrive au cours d'un voyage d'une incroyable lenteur. Et je crois qu'il y a là un pacte de lecture qui nous incite à rentrer très progressivement dans cette histoire, dans une histoire qui prend son temps et qui nous introduit aussi presque dans la nostalgie d'un monde déjà perdu, c'est-à-dire loin de toute économie de l'urgence. Et alors juste à la deuxième page du roman, il y a l'apparition donc de Bernard Middleton et il est là un peu par hasard, notamment parce que l'ami qui devait le rejoindre pour les vacances n'est pas là, enfin est tombé malade, donc a dû annuler son arrivée. Et il dit, Bernard, enfin le narrateur, hein, Bernard se sentit d'abord un peu seul, Pourtant, dès le second jour, dans cette foule chatoyante où son œil n'avait recueilli d'abord qu'une impression assez floue, il en vint à distinguer de vagues dessins, et il espérait bien ne pas tarder à faire lui-même partie d'un de ces dessins, lequel il n'en savait rien encore. Pour l'instant, il demeurait spectateur, et le caractère cosmopolite de la société qui évoluait autour de lui l'amusait et l'intéressait. Et j'aime beaucoup comment se construit un monde finalement fantasmatique à travers cette métaphore picturale, qui montre donc véritablement cette entrée dans un univers rêvé qui se présente déjà comme une sorte de monde dans lequel on pénètre presque par effraction. C'est un peu une sorte de cul-de-sac, en quelque sorte, ce monde. Et de fait, les personnages y sont en représentation, sont des gens qui sont absentés à la société, qui sont dans un divertissement d'une très grande futilité, d'une très grande vacuité, où on cancane à l'envi pour, en quelque sorte, se divertir.
Tout le monde attend.
C'est un petit monde à la dérive, de toute façon.
Mais juste un trou dans le ciel.
Et ses yeux étaient si clairs que les larmes.
Une des pistes par lesquelles j'ai pu remonter jusqu'à Gladys, c'est un dans la chronique mondaine du New York Times, dans les années 30, il y a une notice disant que Miss Alfreda Parrish, donc la fille de Gladys, a été présentée à la reine Elizabeth. Donc, comme je n'avais que Parrish, et je cherchais absolument tout ce qu'il y avait autour de Parrish, parce que j'avais déjà retrouvé l'arbre généalogique sur Internet de la famille Parrish, elle a dû être à Londres. Et à partir de ça, grâce à cette notice, j'ai pu découvrir que Alfreda Parrish, donc la fille de Gladys, avait été mariée à Brian Urquhart, qui était sous-secrétaire général de l'ONU pendant des années, qui est le fondateur des casques bleus quand même. Et je l'ai retrouvé d'une manière complètement dingue en épluchant les passages des bateaux transatlantiques. Année par année. Donc en épluchant ça, brusquement, je vois Mrs. Parrish Huntington et Monsieur Urquhart et leurs trois enfants, Catherine, Thomas et Robert. Et donc là, je dis, ah ben ça colle avec l'arbre généalogique. Et donc, Brian Urquhart, il doit avoir 90 ans maintenant, comment est-ce que je le retrouve? Et donc je fais US Search, et donc je tombe sur un numéro à New York, et je me dis, bon, ben, tentons le coup. Et donc je l'appelle, et il me répond, absolument charmant, et il me dit, oui, je suis en effet le gendre de Gladys Huntington, qui a écrit Madame Solario.
Là-dessus, là, mon mari et moi, on m'a dit, bon, bah, écoute, tu veux aller au lac de Côme? Oui, on va aller au lac de Côme. Nous voilà partis au lac de Côme, à la recherche de l'hôtel Bellevue. Nous sommes partis, et nous n'avons pas trouvé d'hôtel Bellevue dans le guide. Nous sommes allés à Bellagio. Et moi, je freinais des quatre fers pour pas y aller. J'avais la trouille. Je sais pas pourquoi. J'avais peur de pas trouver, en fait, d'être déçu. Finalement, on y est allé. Et on est arrivé donc à l'hôtel Bellevue, après s'être promené, etc. L'hôtel Bellevue était fermé. Il y avait une colonie de vacances, des petits-enfants qui l'occupaient. Bon, il était déjà un peu déjeté, l'hôtel, c'était plus le palace, mais il y avait les colonnes, mais il y avait cette salle à manger où ils se rencontrent, tout y était, et il y avait le portier. Alors au portier, au gérant, je ne sais quoi, on demande le livre d'or. Bien sûr, je cherche Churchill, je ne le trouve pas. Je trouve la reine Victoria, je trouve la tsarine Alexandra, je trouve beaucoup de monde. Pas de Churchill. En sortant, on remercie le portier et je lui dis, Churchill n'est pas venu dans votre hôtel. Il me regarde, il me dit si, et Madame Solario aussi.
So what?
Je voudrais l'approcher.
Permettez-moi de vous présenter Madame Solario.
Je ne supporte pas. Non. Rien.
Tous deux s'interrompirent, mais assez discrètement pourtant, quand vint à passer l'ambassadrice d'Autriche. Bernard la trouvait si antipathique qui la suivit des yeux, et au moment où, en même temps que son laideron de fille, elle passait devant la porte de l'hôtel, il en vit sortir une dame qu'il ne connaissait pas encore. Ce n'était pas une jeune fille, du moins au sens qu'il donnait au mot « jeune », bien qu'elle n'ait pas plus de 27 ou 28 ans, et il le voyait bien. Ses regards s'arrêtèrent sur elle, non pas avec l'intérêt que lui eût inspiré une jeune fille, mais pour le seul plaisir de la contempler, et ils s'y arrêtèrent longuement, car aussitôt, il la trouva très belle. Bernard demanda à la signorina Petri, assise à côté de lui, « Savez-vous qui est cette dame ?» Elle regarda d'abord la personne indiquée, et ensuite Bernard, avec plus d'attention qu'elle lui en avait accordé jusqu'alors. « C'est Madame Solario, » répondit-elle.
Ce matin, Madame Solario m'a soudain proposé de l'emmener faire un tour en barque. Je t'avoue que cette promenade était divine.
Faut m'appeler par mon prénom, pas Madame Solario.
Dois-je vous appeler Natalia?
Oui, Natalia, bien sûr.
Il me semble qu'il y a une dimension de critique sociale qui est très subtilement véhiculée dans le roman, précisément par l'attrait, le rayonnement de cette femme, hein, ce nom très astral de Solario qui évoque le soleil. Et en effet,
mais un soleil noir, on a envie de dire.
Alors, un soleil noir et puis surtout un soleil trompeur, c'est-à-dire que tout le monde, finalement, dans cet hôtel, est fasciné par elle. Elle est l'objet de tous les désirs, hein, de toutes les curiosités. Et on sent bien qu'elle est, d'une certaine façon, le point focal de cette petite société. Et en même temps, nous n'avons jamais accès à son intériorité.
Parce qu'elle a un secret.
Alors, parce qu'elle a un secret, mais je crois aussi parce que, dans le fond, c'est un peu une icône à fantasme. Mais elle est un peu vide. C'est-à-dire que, comment apprend-on véritablement son histoire? C'est dans la partie centrale de ce triptyque qu'est le roman, à la faveur des conversations qu'elle a avec son frère.
Mais avant, déjà, on apprend des choses sur sa biographie.
Oui.
D'où elle vient, le voyage à Paris, le beau-père, tout ça, et jeté par petites touches.
Oui, par Guimard notamment, hein, qui propage la connaissance du scandale avec beaucoup de malveillance, on le sent, hein, bien sûr.
Les ragots,
naturellement. Et puis elle-même, lorsqu'elle se promène avec Bernard Middleton en canot, elle évoque le Maine, et puis elle évoque l'Angleterre, je crois, enfin.
La Suède,
absolument. Donc, elle distille comme ça des indices, les ragots nous permettent d'en savoir un peu plus sur elle. Néanmoins, rien n'est cristallisé en termes de connaissances.
Rien n'est clair.
Très épars.
Certes, on voyait tout de suite qu'elle était de langue anglaise, mais on discernait parfois dans son élocution certaines nuances qui n'étaient peut-être pas très anglaises et semblaient indiquer qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie à l'étranger. D'ailleurs, elle avait certainement épousé un étranger. Son nom avait une consonance espagnole. Son mari devait-il venir la rejoindre? Où se trouvait-il? Quel genre d'homme était-ce? Au même moment, l'attention de Bernard fut attirée par ses mains, car du bout de son ombrelle, elle agaçait un lézard qui se prélassait au soleil. « Je trouve les lézards si cocasses, » dit-elle, tandis que l'animal prenait la fuite.
Ce qui me frappe beaucoup, c'est dans les dialogues qu'elle a avec son frère, c'est cette sorte de très grande passivité. C'est un personnage très impénétrable. Et cette passivité s'exprime notamment lorsqu'il lui propose cette espèce de pacte prostitutionnel avec donc...
D'échange.
Oui, le marquis San Rufino. Et dans le fond, elle acquiesce, c'est-à-dire qu'elle ne réagit jamais. Elle passe son temps à à manifester par un hochement de tête ou par simplement un mot son adhésion. Et c'est là que la dimension scandaleuse du roman est constamment estompée, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'extraordinairement transgressif et d'extraordinairement scandaleux dans ce pacte où qui est déjà incestueux en soi, puisqu'il s'agit d'être l'amant et la maîtresse d'un couple marié. Et la réaction de Madame Solario est toujours très impassible. Donc elle acquiesce, mais sans violence, sans adhésion très affirmée, sans révolte, enfin. Donc il y a chez elle une sorte de neutralité, et j'en viens à penser qu'elle est tout de même une héroïne postmoderne dans un univers très suranné. C'est-à-dire que le roman met en scène un univers dont il nous dit bien qu'il n'existe plus, hein, au début du siècle. Or, le roman donc se déroule 50 ans avant la date de parution.
En 1906, les rives du lac de Pau.
Voilà, cette villégiature qui est un peu quasiment un topos, hein, de la Mittel Europa, pour ainsi dire. Et je trouve que c'est là l'une des grandes originalités de ce roman, qui repose sur cette tension entre un univers qui est le monde d'avant, hein, en quelque sorte, enfin cette espèce d'univers
déterminé et condamné à la fois.
Voilà, absolument. Et au sein de cet univers très suranné, très fossilisé pour ainsi dire, il y a une héroïne qui pour moi est absolument le modèle des héroïnes durassiennes.
Alors voilà. Est-ce que justement Madame Solario n'est pas un archétype littéraire, un archétype romanesque, comme on peut parler de, je ne sais pas, la princesse de Clèves ou Anna Karénine?
En tout cas, à ma connaissance de lecteur, hein, il n'y a pas de précédent à Madame Solario. C'est-à-dire qu'en effet, elle s'impose comme un archétype, et il me semble que la littérature après Madame Solario va mettre en scène des héroïnes de la passion qui sont un peu des songes creux, qui sont un peu des femmes à la fois très éthérées, très diaphanes, mais des femmes fatales, qui seraient somme toute exsangues, qui n'ont pas de tempérament. Je pense à Anne-Marie Stretter dans, évidemment, Le Vice-Consul, India Song. Et en lisant Madame Solario, pour moi, évidemment, Madame Solario, c'était Delphine Seyrig. Je n'arrivais pas à la concevoir autrement. Cette espèce de grâce, comme ça, très chorégraphique, cette absence absolue de maladresse, hein, cette taille un peu au-dessus de la moyenne, donc un corps qui est en même temps voluptueux, qui n'est pas exactement canonique. Ce regard bleu, enfin...
Cette blondeur qu'elle partage.
Cette blondeur, absolument. Et évidemment, Anne-Marie Stretter, c'est cette femme qui, là encore, cristallise tous les fantasmes, dont le passé est finalement l'objet de bien des spéculations, faute d'être véritablement connue, donc qui est l'objet d'un mythe qui passe, là encore, par les ragots, par les on-dit, et qui est une figure éminemment sexuelle, et qui, en même temps, dit un moment dans Le Vice-Consul... Ce n'est pas moi qui pleure, c'est une douleur qui me traverse. Il faut bien que quelqu'un pleure, alors c'est moi. Comme si, dans le fond, il y avait chez elle un manque à être qui faisait qu'elle n'est pas le sujet de sa propre vie, mais qu'elle en est, pour ainsi dire, la transition, le médium.
Pas une âme, dit-il en regardant au dehors, toi et moi seulement. Et ces deux petites lumières là-bas, en face, les deux petits points lumineux qu'on apercevait à Bellagio, étaient les seules présences humaines dans tout ce paysage de montagnes et de rivages sinueux, sombres ou argentés, étendus sous le somptueux dais du ciel. Mais dans l'air se répandit, sembla venir à la fois de près et de loin, un bruit de clochettes. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-il toujours à mi-voix. « Tu entends ? Tes clochettes ?» Et, au bout d'un instant, « Sommes-nous vraiment ici, suspendus dans cette cage éclairée, rien que nous deux ?» Comme il s'attardait à la fenêtre, il lui dit « Bonne nuit, Eugène. » Il se détourna pour la regarder, mais sans faire un pas. Tandis qu'avec une langueur pensive, Elle reprenait son châle et se dirigeait vers la porte. Il semblait lui dire « Voyons, de quelle manière tu t'en tires ?» Et quand elle ouvrit la porte, il fit « Chut !» en posant un doigt sur ses lèvres.
Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans tout cela, c'est naturellement, outre la réflexion sur ce que la sexualité comporte de dangerosité, de mauvais quartier, si je puis dire, hein, de gouffre, c'est également, à travers cela, peut-être, une façon de saboter ce très beau monde qui est dépeint, et de montrer aussi comment ces passions contribuent à la dégradation, à la dislocation de cet univers. Il me semble en plus qu'il y a un inceste qui est, comment dirais-je, transitif et qui a lieu dans le roman. Lorsque Eugène implore en quelque sorte sa sœur de lui dire ce qui s'est passé, elle finit par consentir à ce récit et elle évoque le fait que donc son beau-père, Carlos de Flores, s'est penché sur elle alors qu'elle était en train de faire une rédaction à son bureau, et c'est là que tout a commencé, et cela a été commenté par une gouvernante qui a été le coryphée en quelque sorte de cette tragédie, et qui dit « comme votre papa est bon pour vous ». Donc là encore on voit bien ce mélange d'apparence très polissée, et puis derrière ce surgissement des pulsions les plus sauvages, les plus archaïques. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est le moment où se consomme l'inceste entre Eugène et Natalia. C'est après que Kovansky a fait irruption dans la chambre où ils sont en train de parler. Il décide donc de sortir très discrètement pour ne pas éveiller, évidemment, les soupçons. Et puis, voilà ce que nous écrit le narrateur. Eugène, donc, referma sans bruit la porte de sa sœur. Au bout de quelques minutes, il revenait. Il ferma la porte et la verrouilla. Et telle était en lui la violence du désir que pour traverser la pièce, il avançait en trébuchant. « Comme votre papa est bon pour vous, » dit-il, « haletant. »
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le récit de sa sœur a en quelque sorte réalisé chez lui ou fait éclore le désir de l'inceste. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est l'économie tragique, en quelque sorte, avec laquelle cette scène est évoquée.
En très peu de mots.
En très peu de mots. C'est à la fin de la deuxième partie. Donc il y a quelque chose de l'ordre du couperet. Et cela se termine sur le parti présent haletant, avec cette violence du désir. Et on a l'impression que ce désir est en fait aiguillonné par cette phrase de la gouvernante coryphée, comme si ce rejouait-là, une scène dont peut-être Eugène a été privé, en tout cas il a été privé de sa sœur, il a été exilé, il a été privé de sa mère, il a été privé du deuil de sa mère qui est morte alors qu'il était en exil, il a été privé de l'argent, donc c'est l'homme qui a payé et qui a été dépossédé.
C'est une scène de revisitation.
Donc de revisitation, absolument, et on a l'impression qu'il y a là donc un scénario archaïque qui se réduplique en quelque sorte. Je trouve que c'est vertigineux.
Je crois que les épreuves traversées, le coup de revolver au papa, au demi-père enfin, l'histoire de la mère, tout ce qu'on a prêté à leur enfance, à leur histoire, bon, à leurs origines, les a rassemblés d'une certaine façon et qu'ils ont eu besoin de ce jeu de miroir. Je ne sais pas s'ils se ressemblaient vraiment, mais pour eux même, ils devaient se ressembler. Il y avait là une nécessité vitale. Il fallait qu'ils se renvoient l'un à l'autre. C'était indispensable. Ils se fondaient l'un dans l'autre. C'est pour ça que l'inceste était là aussi, ils se fondaient l'un dans l'autre. C'était... Leur histoire est belle.
C'est une histoire d'amour ?
Oui, c'est une histoire d'amour. une belle, belle histoire d'amour.
Et en même temps, ce sont des aventuriers, ce sont des manipulateurs.
Ben, ce sont des manipulateurs, ce sont des cyniques, ce sont des aventuriers, même l'un vis-à-vis de l'autre.
Ce sont des voyous.
Ils se servent, ce sont des voyous, ils se servent l'un de l'autre.
Et comment interprétez-vous les rapports qu'ils nouent avec, le gibier qui est autour d'eux, pour reprendre un peu la métaphore de la chasse?
Ils s'en foutent complètement.
Enfin, ils chassent l'un et l'autre.
Ils chassent, oui. Le rapport, c'est... qu'est-ce qu'on peut en tirer?
De l'argent.
Bien sûr. Mais pas seulement.
Le
pour
pouvoir,
Madame Solario,
le pouvoir sur les autres,
comment,
le pouvoir de séduction.
Oui, et puis le pouvoir de séduire et une réaffirmation de leur existence, puisqu'on les admire, puisqu'on les regarde. On les regarde, c'est important, ils prennent corps.
Oui, on a l'impression que Madame Solario, c'est une sorte d'apparition, comme ça, qui, au détour, on ouvre une porte, on ferme une porte, Madame Solario est devant ou derrière. Enfin, c'est...
Voilà. Je l'ai vécu comme un rêve, c'est-à-dire que je l'ai entendu comme un rêve. Je ne peux pas vous dire que c'est pas bourré de... Enfin, la psychanalyse était là. Je trouve intéressant l'écriture de Madame Solario, la présentation de Madame Solario, ce livre et cette histoire d'inceste extraordinaire qui fait que l'homme qui l'a écrit ou la femme qui l'a écrite n'ont pas voulu mêler leur nom à ça. Pourquoi ? Parce que c'était trop personnel. Si ça n'avait pas été trop personnel, s'ils ne s'y étaient pas sentis impliqués, ils auraient signé où est l'affaire. On en a écrit des histoires d'inceste. C'est la peur de ne pas être reconnu pour ce que l'on est. Alors tant qu'à faire, on se déguise, pensant que le déguisement est plus acceptable, pensant ça.
C'est dire qu'il y a du danger. Pour se
il y a
protéger.
Un danger au niveau de sa propre identité, oui. Ne pas être reconnu, c'est un danger. Être méconnu.
Ça m'a beaucoup intéressé de comparer avec deux écrivaines, si je puis dire, qui ont choisi l'anonymat aussi, qui sont Dorothy Brucy, qui était la traductrice de Gide en anglais, et qui a traduit un livre qui a eu à l'époque un énorme succès, qui s'appelait Olivia, qui est aussi un livre avec des relents érotiques peut-être encore plus forts que Madame Solario, puisque ça se passe dans un pensionnat de jeunes filles avec...
C'est un roman sur le sophisme.
Oui, absolument.
Elle ne l'a pas traduit, elle l'a écrit.
Elle l'a écrit, mais elle était la traductrice d'André Gide. Donc elle l'a écrit en anglais. Et d'ailleurs, c'est Roger Martin Dugard qui l'a traduit en français, ce qui est quand même... C'est pas n'importe quoi. Alors même que Gide, qui a toujours eu des rapports très compliqués avec cette Dorothy, lui disait « tu ne seras jamais capable d'écrire un roman ». Au même moment, Martin Dugard disait « c'est génial, je le traduis ».
Alors l'autre livre, c'est « Histoire d'eau ».«
Histoire d'eau », de donc Pauline Riage, qui est un des pseudonymes de Dominique Horry, qui est elle-même...
L'amante de Paulhan. Non, mais ce qui est intéressant, Bernard Cohen, ouais, c'est que dans les trois cas, nous avons affaire à une écriture féminine qui porte sur la sexualité féminine. Et la sexualité trouble.
Absolument.
Le saphisme, le sadomasochisme et l'inceste.
Et l'inceste. Et dans les trois cas, anonymat.
Au premier coup d'œil, on aurait pu la croire aussi impassible que jamais, aussi maîtresse d'elle-même, mais tout de suite il vit, il sentit le plaisir profond qu'elle éprouvait, comme si ce plaisir s'exhalait d'elle, et son sourire, qui n'écartait même pas ses lèvres, donnait au coin de sa bouche une expression de convoitise. Mais comment pouvait-on parler de convoitise quand il s'agissait d'une créature aussi belle ? Et je trouve assez fascinant que cette convoitise semble émaner du plaisir profond qu'elle éprouve mais qui s'exhale d'elle. Donc on a l'impression qu'elle est son propre aliment érotique, qu'il y a une sorte d'auto-érotisme de ce personnage. Et cela m'amène en fait à avoir une lecture particulière des nombreuses descriptions de ses tenues. C'est-à-dire que c'est un personnage très ornemental. C'est une icône.
Elle est parée.
Elle est parée en permanence. Et
alors quels sont les attributs de la parure ?
Les attributs de la parure, évidemment le chapeau, l'ombrelle. Les robes qui sont toujours de couleur, hein, elle arrive avec une robe qui est, je crois, violette, enfin couleur pervenche. Mais surtout, c'est le bijou. Hein, le bijou.
Bleu argenté. La beauté blonde et le bleu argenté de sa robe lui donnaient l'air d'être baigné par la lune au milieu d'autres couleurs éclairées par la lumière du jour. C'est presque Diane qui apparaît au bal.
C'est absolument. Et il y a quelque chose d'écate. Et c'est pour ça que ce que je trouve fascinant, c'est que ce nom de Solario, qui évoque bien sûr le soleil. Et en plus, un soleil peut-être sud-américain. Donc, un soleil torride, enfin un soleil méridional, si je puis dire, montre donc à quel point elle apparaît comme un astre dans cette société. Néanmoins, la mention de ses bijoux la situe du côté de la lune.
Oui, c'est la reine de la nuit.
C'est la reine de la nuit, absolument. C'est Hécate, et c'est un peu une chasseresse, mais dissimulée sous des apparences de grâce extraordinaire.
Et alors, elle porte les attributs de Diane, les croissants de lune, de diamants.
Absolument, de Diane de Poitiers, oui. Ces croissants de lune, qu'on pourrait d'ailleurs attacher à ces deux C qu'elle trace sur le sable.
Alors parlons-en de ces deux C. Ils vous inspirent, je crois.
Ils m'inspirent, oui, parce qu'évidemment, je suis un lecteur de l'essai de Natamina, enfin, du roman d'ailleurs de Natamina, qui m'a raconté son enquête extraordinaire sur les lieux du roman. Et qu'elle a en effet romancé dans Qui a écrit Madame Solario.
J'ai eu un livre qui s'appelle Painting as a Pastime. J'ai cherché, mais pas trouvé. Bon, où est reproduit la petite chapelle rose où Madame Solario va se promener, ou je ne sais plus qui elle rencontre. Il y a le petit bateau sur lequel elle fait des promenades. Bon, ça, c'est deux tableaux. Il y a ça dans ce petit livre, et il y a ça d'ailleurs reproduit dans un livre d'art consacré à la peinture de Churchill. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est tout.
Vous connaissiez cette église ?
Non, je la trouve très jolie.
Je vais regagner l'hôtel. Et vous ?
Je vais à la villa de le roi, les aider à préparer la fête.
Je fais quelques pas avec vous.
À un moment donné, Madame Solario est assise sur un banc et trace des initiales, des C entrelacés. À la fin de notre voyage, nous nous arrêtons dans un hôtel sur le lac de Brunnen. Et dans cet hôtel, il y a un fumoir dans lequel sont exposées des photos signées. On y voit beaucoup de monde. Le roi de Suède avec sa raquette de tennis, Marie Bonaparte avec Aristide Briand, enfin tout ce qu'on veut, tout est là. Et Churchill et Clementine, sa femme. Et il y a une signature, il y a une petite lettre où il remercie l'hôtel, etc. Je ne sais même pas s'il y avait une photo, mais je sais qu'il y avait quelque chose d'écrit, il y avait une lettre. Et la signature, ce sont deux C entrelacés.
Alors il me semble qu'il y a là une figuration de la signature, c'est-à-dire qu'on trace dans le sable un indice qui s'inscrit également dans la tissure du texte. Alors j'aime beaucoup cette idée d'une inscription implicite, parce que ce roman est aussi un réservoir de symboles, un réservoir d'indices. Et de même que Catherine David, dans l'article qu'elle a consacré au livre de Notaminor, rappelle qu'il y a deux lieux qui sont absolument paradigmatiques de la rencontre entre Bernard Middleton et Madame Solario.
La chapelle.
La chapelle, et puis ce coteau, Church Hill. Alors il me semble quand même, malgré tout ce qu'on peut opposer en termes de, voilà, d'arguments très scientifiques pour plaider que Gladys Huntington est l'auteur de ce livre, je trouve extrêmement séduisant de penser qu'il y a là quand même la possibilité de croire que c'est bien Winston Churchill qui l'a écrit.
Il voudrait l'approcher.
Vous pouvez parler d'elle ?
Il se détourne. Irréprochable. Je ne supporte pas.
C'est un livre qui fait rêver. C'est un livre qui fait rêver.
Ce que nous entendons ici.
J'ai aussi rêvé, bien sûr. C'est pourquoi je vous dis, tout est possiblement complètement faux. Et on prend toujours ses désirs pour des réalités. Et j'ai peut-être complètement fait coucher toutes ces preuves dans le sens qui me convenait. Peut-être je suis pas juge. Je peux plus être juge de ce que j'ai fait. J'ai une conviction.
Moi, ce que je soutiens, c'est que Gladys voulait le signer, le livre. Et d'ailleurs, il y a un moment, fin 57, quand le livre est déjà sorti un peu partout, qu'il a un très gros succès aux États-Unis, en Angleterre, qu'en France, André B., qui donc dirige la collection étrangère chez Stock, lui envoie une lettre en disant le livre marche magnifiquement. Aussi qu'il y a une équipe de Life vient la voir, du magazine Life américain, vient la voir dans sa retraite du Sussex. Et
pour une interview.
Pour l'interviewer, et fait l'interview. Et un truc absolument incroyable, c'est qu'elle se présente comme Gladys Huntington, l'auteur de Madame Solario. Donc à ce moment-là, elle ne veut plus de l'anonymat. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que tout le monde la pousse dans l'autre sens. Son éditeur anglais, Heinemann, son éditeur américain, Viking, son éditeur français, Stock. Parce que quand Paris Match envoie une équipe pour l'interviewer, dans son journal, elle dit « Oh, je suis toute contente, il y a Paris Match qui vient m'interviewer. » Elle est vraiment contente comme une petite gosse. Et le lendemain, elle écrit « Stock m'a dit de ne rien dire. Ils veulent garder l'anonymat. » Elle écrit en français dans son journal. « Ils veulent garder l'anonymat. » C'est un prétexte commercial. C'est un météore, ce livre. C'est-à-dire que c'est un livre qui a un très grand succès commercial, qui a aussi un très grand succès d'estime, parce que, bon, moi, j'ai retrouvé que, par exemple, Marguerite Yourcenar non seulement avait deux exemplaires du livre dans sa bibliothèque de chevet, mais en plus, elle s'était intéressée à un projet d'adaptation au théâtre de Madame Solario. C'est un personnage qui est extrêmement abouti, et en même temps, quand on finit le livre, on s'aperçoit qu'on ne connaît rien d'elle. Donc, et on se rend compte que beaucoup de ce qu'elle dit sur sa vie sont des affabulations. On se rend compte que tous les hommes autour d'elle sont prêts à s'entretuer pour elle, mais aucun d'eux n'est vraiment certain de ce qu'elle éprouve pour eux. Et elle s'en va comme elle est arrivée dans le livre, c'est-à-dire mystère complet. Donc je crois que ça, c'est une force littéraire qui est assez extraordinaire et qui est, par exemple, complètement fasciné le cinéaste Joseph Losey, puisque quand il a répondu au questionnaire de Proust, on lui a demandé quelles étaient ses trois héroïnes préférées, et il a dit Cléa de
Durrell,
du Quatuor d'Alexandrie de Durrell, Madame Solario, et il a dit anonyme, parce qu'à l'époque, on pensait tous que c'était anonyme, et Anna Karenina de Tolstoï.
Il n'a jamais eu l'idée d'en faire un film ?
J'ai pas retrouvé de traces de ça. Il y a eu plein de projets cinématographiques. Il faut quand même savoir que David Selznick lui-même, le grand producteur d'Hollywood, est tombé complètement fou amoureux du livre très peu de temps après sa parution.
C'est le producteur de Autant en emporte le vent,
oui.
entre autres.
Que dès 57, il a justement demandé au scénariste d'Autant emporte le vent de travailler sur un scénario autour de Madame Solario. Ça a capoté.
Il avait racheté les droits.
Ouais. En Angleterre, il y a eu quatre projets, dont des scénaristes très connus là-bas, très respectés. Mais à chaque fois, ça a capoté jusqu'à l'aventure de René Ferré en France, qui est tombé amoureux du livre et de l'histoire de Gladys.
J'avais lu le roman de Thomas Mann, j'avais lu Yourcenar, tous ces auteurs, et je cherchais un peu une voie. Je voulais inscrire l'inceste dans une réalité sociale et avec tout ce que l'inceste pouvait avoir de dérangeant, de bouleversant, de complexe et d'insupportable pour cette société. Et puis voilà, du coup, je relisais des notes de Yourcenar, et Yourcenar cite souvent le roman Madame Solario, et donc ça a aiguisé ma curiosité, et j'ai trouvé le livre, je l'ai lu, et je me suis dit, ça y est, j'ai le coup de foudre, c'est ça que j'ai envie de faire ce film. Et donc je me suis lancé seulement il y a 2 ans, finalement, 2-3 ans, dans l'aventure de l'adaptation de ce roman.
Donc si je comprends bien, c'est l'histoire de Madame Solario qui vous a titillé, mais aussi, j'imagine, les personnages. Alors j'aimerais comprendre comment vous avez procédé dans l'adaptation du roman. Comment s'est fait le découpage ?
Alors j'ai tout de suite senti que le roman était très piégeant. Hein, parce que, disons que le piège pour moi, c'était d'en faire un peu une ambiance de cinéma italien des années 70, avec un personnage vraiment fabuleusement beau, avec une espèce de fusion amoureuse avec le frère, enfin tout ça. Finalement, je me suis aperçu que ça ne m'intéressait pas vraiment, ces aspects-là. Ce qui m'intéressait, c'était finalement la victime, Madame Solario. C'est bien pour ça que j'ai décidé d'en faire une femme très jeune. Donc, ce qui m'intéressait surtout, c'est de montrer un milieu très inconscient, très riche, très plein d'exigences comme ça, de vices, mais dans une apparence, tout dans l'apparence, et d'avoir cette ce scandale potentiel qui peu à peu est perçu par cette société et d'une certaine manière la renverse, quoi.
Ces plaisirs de villégiature vous amusent, n'est-ce pas?
Certains préfèrent passer le mois de septembre à Lucerne. Mais Lucerne est devenue impossible. La ville d'Est aussi, d'ailleurs. Le lac de Combe demeure vraiment l'idéal.
On y forme une vraie petite famille, n'est-ce pas, Natalia?
Bernard Cohen, j'aimerais qu'on évoque les dernières années de l'existence de Gladys Huntington. C'est une histoire qui se termine mal.
Oui, c'est une histoire qui se termine mal. Après l'euphorie des mois suivant la sortie de Madame Solario, des succès, des très bonnes critiques dont on a parlé, de l'excitation que Hollywood s'intéresse au film... Tout ça retombe de manière que j'ai encore du mal à comprendre totalement. Il y a une gêne chez son mari, chez Constance Huntington. C'est évident parce que il y a un moment dans son journal où elle dit « J'ai donné à lire le manuscrit. J'attends, il me dit rien. » Donc c'est l'angoisse du verdict, quoi. Et... Elle, quelques jours après, elle dit qu'il lui a dit, c'est incroyable, c'est Frankenstein, en parlant du livre, qui est quand même, si on regarde bien, entre un mari et une femme, c'est très bizarre quand même.
Et en même temps, c'est la reconnaissance d'un chef-d'œuvre.
Oui, mais pourquoi Frankenstein? Et en même temps, bon, c'est quand même un éditeur, donc il pourrait donner un avis un peu plus professionnel que ça. Et c'est tout ce qu'il y a dans le journal de Gladys. Et dans son journal, elle a des entrées de plus en plus déprimées, visiblement à l'arrêt d'écrire.
L'angoisse gagne.
Ouais. Elle refait plus mention de son autre projet de roman. Les dernières entrées du journal, elle dit que elle était très contente de voir Peter, donc son fils adoptif, à Londres, qu'elle a déjeuné avec une amie, qu'il pleut, et je crois que la dernière entrée, c'est retour à Amberley. Donc Amberley, c'est le village du Sussex où elle habitait et où sa petite-fille habite aujourd'hui. Pluie. Je crois que c'est la dernière entrée. Et après, elle meurt. Alors après, elle meurt. Et donc, sur la vie de décès, mort naturelle, elle est enterrée dans le petit cimetière qui est juste à côté de leur très jolie maison. Tombe très protestante. Et là encore, quand j'ai vu cette tombe, c'est assez hallucinant parce que c'est un peu toute la tragédie de cette femme. Parce que ce qui a marqué, c'est Gladys Huntington, fille de Alfred Parrish, femme de Constance Huntington. Alors là, regardez ça, vous vous dites, comme société patriarcale quand même, faut le faire. Même pas de mention de la mère, et comme ça, comme si...
Les hommes devaient avoir le dernier mot.
Oui, comme si elle n'avait existé que grâce à ces deux hommes. Donc, c'est assez sidérant. Et donc, pour tout le monde, Gladys est mort de mort naturelle. Et c'est sa petite-fille qui m'a dit, bon, il faut savoir qu'elle s'est suicidée.
Le mot « destin » lui vint à l'esprit, car la beauté de la jeune femme évoquait nécessairement une idée, une image. Comme ce matin même, elle évoquait une statue de marbre, une tête de méduse. Mais ce n'était pas elle-même qui personnifiait le destin. Ce qui semblait si frappant chez elle en cet instant, c'est qu'elle semblait voir son propre destin.
Et alors ?
Oh ben rien. C'est quand j'en parle, je suis tellement convaincue. À part vous, j'arrive à convaincre tout le monde. C'est tout.
Moi, j'ai eu le manuscrit de Madame Solario entre les mains. Et c'est évidemment une écriture féminine. Et en plus, il était conservé dans une valise en cuir, sous trois cajots de pommes venus du Sussex et... une caisse de très bon Bordeaux dans la maison de Peter de Brandt, qui n'a jamais eu rien à voir avec les Churchill.
La littérature est un jeu de pistes, et à certains égards, avec Madame Solario, on est dans la bibliothèque de Babel. Donc l'attrait du livre, il passe évidemment par ce mystère qui prête le flanc à toutes les spéculations, et ce sont des spéculations que je trouve toujours gourmandes, c'est-à-dire que ça reste une aventure.
À un moment, je me suis dit, mais pourquoi cette obsession ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en tant qu'écrivain moi-même, c'était comme une sorte de revanche symbolique que je donnais à cette femme. Je me suis dit, si elle voit ce qui va se passer, c'est-à-dire si jamais son livre est republié, mais que cette fois... c'est pas anonyme Madame Solario, mais Gladys Huntington, Madame Solario, est-ce que ça sera le bonheur absolu pour elle?
Alors, autre bonne surprise, ai-je envie de dire, dans quelques jours, reparaîtra le roman Madame Solario avec mention d'un nom d'auteur. S'agit-il de l'auteur véritable ? C'est à chacun de se prononcer. En tout cas, les belles lettres vont publier Madame Solario avec comme nom d'auteur celui de Gladys Huntington. Que pensez-vous de cet événement ?
Deux choses très différentes. La première, c'est que j'aime infiniment que ce roman ait été jusqu'à présent réservé aux happy few, aux curieux. à ceux qui se délectent des énigmes littéraires. De même que j'ai adoré avoir des difficultés à trouver ce livre, parce qu'évidemment tout cela participe de son aura, de son mystère. Donc à ce titre, l'idée qu'il soit disponible aujourd'hui, même si ce n'est pas très glorieux de dire ça, parce que ce n'est pas une pensée très démocratique, si je puis dire, quelque part ça me déplaît un peu, parce que ça veut dire qu'on va sortir de l'ère magique, hein, du mystère, de la difficulté, qui accroît le désir, qui l'aiguise.
Enfin, pendant une vingtaine d'années, il était disponible en livre de poche, hein, en 2018.
Oui, vous avez raison, mais là je parle à l'échelle de mon expérience et de ma propre vie, donc évidemment c'est une porte d'entrée très réduite, j'en conviens. Néanmoins, je ne puis que me réjouir de la réédition de ce livre, de la possibilité pour de nombreux lecteurs de le découvrir. En revanche, je trouve que officialiser Gladys Huntington comme auteur de Madame Solario, c'est écraser une part de ce mystère éperdu.
On a percé le secret de Madame Solario, selon vous ?
Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas, et c'est ce que j'aime aussi dans ce livre, et c'est là qu'est, là encore, sa très grande productivité ou sa transitivité, c'est que, en effet, je suis très convaincu par l'enquête de Nathalie Minor, donc, qui a écrit Madame Solario, et j'en suis convaincu à la fois poétiquement, mais également rationnellement. Il me semble qu'elle avance des arguments qui sont... malgré tout, absolument imparable, irréfutable. Bon, l'idée que ce soit Gladys Huntington, pourquoi pas, mais d'une certaine façon, je ne vois pas laquelle des deux théories peut l'emporter sur l'autre. Et je trouve du coup assez miraculeux et assez fascinant qu'un roman puisse susciter l'échafaudage d'enquêtes qui toutes deux débouchent sur une résolution contradictoire et qui toutes deux sont finalement aussi convaincantes l'une que l'autre. Alors, c'est pour ça que, tant mieux hein, que les belles lettres rééditent ce livre, et d'ailleurs, je pense que mon goût pour ce roman fera que probablement j'achèterai cette édition pour le simple plaisir.
Par fétichisme,
hein, pour toucher le grain du papier qui sera bien différent de mon édition de stock originale. Mais je trouve c'est dommage, en fait, de résoudre, de décider cette édition. Et puis, d'une façon, enfin, d'un point de vue plus esthétique, vous voyez, j'ai ici cette édition originale et j'aime ce livre, cette couverture blanche avec le nom de Solario qui semble tracé à la craie noire, qui est quelque chose de très dramatique. C'est-à-dire que cet objet, c'est voilà, une part de l'histoire du roman pendant laquelle personne ne savait. Tout le monde s'interrogeait. Et ça donne un dramatisme extraordinaire. Et ça fait qu'on ouvre ce roman comme on ouvre la porte d'un monde où l'ambiguïté règne.
Madame Solario, Gladys Huntington, avec Nathalie Minor, auteur de « Qui a écrit Madame Solario ?» Bernard Cohen, écrivain et journaliste, Jean-Claude Silberstein, éditeur, René Ferré, cinéaste, et Stéphane Corvisier, écrivain. Lecture, Michael Lonsdal. Remerciements à Annelise Signoret. Prise de son, Anil Bosselet. Mixage, Alain Joubert. Une émission de François Connac, réalisée par Anne Franchini.
Diffusé une première fois le 22 décembre 2012, ce documentaire est disponible en ligne et podcast sur le site de France Culture. La semaine prochaine, samedi à 17h, Une vie, une œuvre sera consacrée par Françoise Esteb et Isabelle Iuel à Pierre de Coubertin.